L'abrégé du capital de Karl Marx par Carlo Caffiero.
L'abrégé du capital de Karl Marx de Carlo Caffiero.
Machine et grande industrie.
Machine et grande industrie.
Machine et grande industrie.
John Stuart Mill, dans ses Principes d'économie politique, a dit : on peut se demander si toutes les inventions mécaniques faites jusqu'à ce jour ont allégé le labeur quotidien d'un être humain quel qu'il soit. Mill aurait dû dire d'un être humain non entretenu par le travail d'autrui, car les machines ont incontestablement accru de manière considérable le nombre des oisifs distingués. Le but des applications capitalistes des machines, d'ailleurs, n'était pas de soulager la fatigue des travailleurs. Comme tous les autres développements de la force productive du travail, leur emploi est simplement destiné à diminuer le prix des marchandises, de façon à raccourcir la portion de la journée de travail dont l'ouvrier a besoin pour payer son entretien, et à allonger l'autre partie de cette journée, celle qui donne pour rien aux capitalistes. C'est un moyen de produire de la plus-value. Mais qui pense jamais aux travailleurs ? Si le capitaliste s'occupe de lui, c'est seulement pour étudier le moyen meilleur de l'exploiter. L'ouvrier vend sa force de travail et le capitaliste l'achète comme l'unique marchandise qui, par sa plus-value, puisse faire naître et croître le capital. Le capitaliste, donc, ne s'occupe de rien d'autre que de fabriquer de la plus-value, en quantité toujours plus grande. Après avoir épuisé les ressources de la plus-value absolue, il a trouvé la plus-value relative. Il voit maintenant que par les machines, il peut obtenir, dans le même temps, un produit 2 fois, 4 fois, 10 fois plus grand qu'auparavant. Et il adopte les machines. La coopération, la manufacture, se transforme ainsi pour devenir la grande industrie. Et l'atelier devient la fabrique. Le capitaliste, après avoir mutilé l'ouvrier par la division du travail, après l'avoir limité à l'exécution d'une seule opération partielle, nous fait assister à un spectacle plus triste encore. Il arrache des mains du travailleur l'unique prérogative qui lui rappelait encore son art, son ancien état d'homme complet, et la donne à la machine. Au lieu d'assigner à la machine le rôle de force motrice, en laissant à l'ouvrier celui d'exécuteur de main-d'œuvre, il fait de la machine elle-même l'organe de l'opération manuelle et ne laisse plus à l'ouvrier d'autre emploi que celui de surveillant et parfois de moteur. Avec l'introduction des machines, le capitaliste réalise tout d'abord un énorme profit, comme on le comprendra facilement si on se rappelle ce que nous avons dit à propos de la plus-value relative. Mais avec la propagation du système de la production mécanique, le gain extraordinaire cesse et il reste seulement l'augmentation de la production qui, rendue générale par la généralisation des machines, diminue la valeur des choses nécessaires à l'ouvrier. Et par là, la durée du travail nécessaire, le taux du salaire, et augmente par conséquent le surtravail et la plus-value. Le capital se distingue en capital constant et capital variable. On nomme capital constant celui qui est représenté par les moyens de travail et les matières premières, les bâtiments, les calorifères, les outils, les matières auxiliaires comme le suif, le charbon, l'huile, etc. Les matières premières comme le fer, le coton, la soie, l'argent, le bois, etc. Toutes ces choses font partie du capital constant. Le capital variable est celui qui est représenté par le salaire, c'est-à-dire par le prix de la force du travail. Le premier est appelé constant, parce que sa valeur reste constante dans la valeur de la marchandise dont elle fait partie, tandis que le second est appelé variable parce que sa valeur augmente en entrant comme partie composante dans la valeur d'une marchandise. C'est le capital variable qui seul crée de la plus-value, et la machine ne peut faire partie que du capital constant. Le capitaliste se propose dans la grande industrie de profiter d'une masse énorme de travail passé de la même façon qu'il profiterait d'une masse de force naturelle, c'est-à-dire gratuitement. Pour atteindre ce but, toutefois, il faut tout un mécanisme, lequel se composera de matériaux plus ou moins coûteux et absorbera toujours une certaine quantité de travail. Mais il n'a besoin d'acheter ni la force de la vapeur, ni les propriétés motrices de l'eau et de l'air. Il n'a pas besoin d'acheter les découvertes et les autres applications mécaniques, ni les inventions et les perfectionnements de l'outillage d'un métier. Il peut se servir de tout cela, tant qu'il voudra, sans la moindre dépense. Il lui suffit de se procurer le mécanisme correspondant. La machine, comme il a été dit, fait partie du capital constant. Et la proportion dans laquelle elle contribue à la composition de la valeur de la marchandise est en raison directe de sa consommation et de celle de ses matières auxiliaires, charbon, graisse, etc. Et en raison inverse de la valeur de la marchandise. Cela veut dire que plus sont grandes l'usure d'une machine et la consommation de ses matières auxiliaires dans la production d'une marchandise, plus la machine communique à celle-ci de sa valeur. Tandis que plus la valeur de la marchandise pour laquelle la machine travaille est grande, plus est petite proportionnellement la part de valeur que communique à la marchandise l'usure de la machine. Si l'usure quotidienne d'un marteau à vapeur, sa consommation de charbon, etc., se répartissent sur d'énormes masses de fer martelé, chaque quintal de fer n'absorbe qu'une portion minime de valeur. Cette portion serait évidemment considérable si l'instrument cyclope ne faisait qu'enfoncer de petits coups. Lorsque, par la généralisation du système de la grande industrie, la machine cesse d'être une source directe de profit extraordinaire par le capitaliste, celui-ci réussit à trouver beaucoup d'autres voies par lesquelles il pourra continuer à retirer une quantité considérable de plus-value de ce nouveau mode de production. Le capital, une fois en possession de la machine, poussa aussitôt ce cri. Du travail de femme, du travail d'enfant. Ce puissant moyen de diminuer les labeurs de l'homme se changea ainsi en un moyen d'augmenter le nombre de salariés. Il courba tous les membres d'une famille sans distinction d'âge et de sexe, sous le bâton du capital. Le travail forcé pour le capital usurpa la place non seulement des jeux de l'enfance, mais encore du travail libre dans l'intérieur de la famille et pour la famille. La valeur de la force de travail était déterminée par le temps nécessaire à la conservation non pas seulement de l'ouvrier adulte, mais aussi de sa famille. En jetant sur le marché tous les membres de la famille, la machine divise ainsi la valeur de la force de travail de l'homme pour le répartir sur la famille tout entière. Elle déprécie par là la force de travail de l'ouvrier. L'achat des quatre forces de travail en lesquelles la famille aura pu, par exemple, être ainsi morcelée, coûtera peut-être plus cher que ne coûtait autrefois l'achat de la force de travail du chef de la famille. Mais aussi, quatre journées de travail ont pris la place d'une seule. Et leur prix a baissé en proportion de l'excès du surtravail, de 4 sur le surtravail d'un seul. 4 personnes doivent maintenant fournir au capital non seulement du travail, mais encore du surtravail, pour qu'une seule famille vive. C'est ainsi que la machine, en agrandissant le champ d'exploitation du capital, c'est-à-dire le matériel humain exploitable, intensifie en même temps le degré d'exploitation. L'emploi capitaliste du machinisme altère foncièrement le contrat, dont la première condition était que capitaliste et ouvrier devaient se présenter en face l'un de l'autre comme personnes libres, comme propriétaires de marchandises indépendantes, l'un possesseur d'argent et de moyens de production, l'autre possesseur de force de travail. Mais maintenant, le capital achète des mineurs ou des quasi-mineurs. L'ouvrier vendait précédemment sa propre force de travail dont il pouvait librement disposer. Maintenant, il vend sa femme et ses enfants. Il est devenu marchand d'esclaves. Si la machine est le moyen le plus puissant d'accroître la productivité du travail, c'est-à-dire de raccourcir le temps de travail nécessaire à la production d'une marchandise, elle devient comme support du capital, dans les branches d'industrie dont elle s'empare, le moyen le plus puissant de prolonger la journée de travail au-delà de toute limite naturelle. Le moyen de travail, devenu machine, se dresse indépendant en face des travailleurs. Une seule passion anime le capitaliste. Il veut réduire l'obstacle que lui oppose la nature humaine, nature résistante mais élastique, à un minimum de résistance. La facilité apparente du travail à la machine est l'élément plus maniable et plus docile que sont les femmes et les enfants l'aident dans cette œuvre d'asservissement. L'usure matérielle des machines se présente sous un double aspect. Elles s'usent d'une part en raison de leur emploi, comme les pièces de monnaie par la circulation, et d'autre part par le non-emploi, comme une épée qui se rouille dans le fourreau. Ceci est la destruction par les éléments. Le premier genre d'usure est plus ou moins en raison directe, et le dernier à un certain degré en raison inverse de leur emploi. La machine est en outre sujette à ce qu'on pourrait appeler l'usure morale. Elle perd de sa valeur d'échange à mesure que des machines de même construction peuvent être fabriquées à meilleur marché, ou que des machines perfectionnées viennent lui faire concurrence. Pour réparer ce dernier dommage, le capitaliste a besoin de faire travailler sa machine le plus possible. Et il commence avant tout par prolonger le travail quotidien, en introduisant le travail de nuit. Le travail de nuit est le système des relais. Comme l'indique le mot lui-même, employé pour indiquer le changement des chevaux de poste, le système des relais consiste à faire exécuter le travail par deux équipes de travailleurs qui se rechangent toutes les 12 heures ou par trois équipes qui se rechangent toutes les 8 heures, de façon que le travail soit continué sans aucune interruption pendant la totalité des 24 heures. Ce système si profitable pour le capital est adopté également au premier moment de l'apparition des machines, moment où le capitaliste a hâte de recueillir la plus grande somme possible de ce profit dit extraordinaire qui doit cesser par la généralisation de leur emploi. Le capitaliste, donc, supprime grâce aux machines tous les obstacles de temps, toutes les limites de la journée qui, dans la manufacture, étaient imposées au travail. Et quand il est arrivé aux limites de la journée naturelle, c'est-à-dire à l'absorption intégrale des 24 heures de celle-ci, il trouve le moyen de faire d'une seule journée 2, 3, 4 jours et davantage en intensifiant le travail 2, 3 ou 4 fois. En effet, si dans une journée de travail, il trouve moyen de faire exécuter à l'ouvrier un travail 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grand qu'auparavant, Il est clair que l'ancienne journée de travail correspondra à 2, à 3, à 4 journées. Et le capitaliste trouve le moyen de le faire en rendant, comme nous l'avons dit, le travail plus intense, en condensant, en d'autres termes, en une seule journée de travail, de 2, de 3, de 4 journées. C'est par les machines qu'il obtient ce résultat. Le perfectionnement de la machine à vapeur a accru le nombre des coups de piston qu'elle donne par minute et a permis en même temps, par une grande économie de la force, de mettre en mouvement un mécanisme plus considérable avec le même moteur, sans augmenter la consommation du charbon, et même en la diminuant. Le perfectionnement du mécanisme de transmission a diminué le frottement et a réduit le diamètre et le poids des grands et des petits arbres moteurs, des roues, des tambours, etc. à un minimum, toujours décroissant. Par là, on est arrivé à faire transmettre plus rapidement la force accrue du moteur à toutes les branches du mécanisme. Tout en accroissant la vitesse et la puissance d'action de la machine, on a pu en diminuer la dimension, comme dans le métier à tisser moderne, ou augmenter, en agrandissant la charpente, le nombre et la dimension des outils qu'elle mène, comme dans la machine à filer, ou accroître la mobilité de ces outils par des modifications de détail, comme celle qui, vers 1837, accrurent d'un cinquième environ la vitesse des fuseaux de la self-acting mule. Un fabricant anglais disait en 1836 « En comparaison d'autrefois, l'effort de travail que nécessitent les opérations des fabriques sont considérablement accrus à cause du degré plus grand d'attention et d'activité exigée de l'ouvrier par la vitesse grandement augmentée des machines. » Et en 1844, Lord Ashley disait à la Chambre des communes « Le travail des ouvriers employés dans les opérations des fabriques est aujourd'hui 3 fois plus grand qu'au moment où ces opérations ont été introduites. » Les machines ont sans aucun doute accompli une œuvre qui remplace les tendons et les muscles de millions d'hommes qui sont soumis à leurs terribles mouvements. Dans la fabrique, la virtuosité dans le maniement de l'outil passe de l'ouvrier à la machine. La distinction essentielle est celle qui classe les travailleurs en ouvriers réellement occupés aux machines-outils, indépendamment de quelques travailleurs chargés de surveiller et d'alimenter la machine motrice, et en simple manœuvre, presque exclusivement des enfants, subordonnés au premier. À ces manœuvres appartiennent plus ou moins tous ceux qu'on appelle des feeders, alimenteurs, chargés seulement de présenter aux machines la matière première à ouvrer. À côté de ces deux grandes classes prend place un personnel numériquement insignifiant, occupé au contrôle de tout l'outillage mécanique et aux réparations nécessaires, ingénieurs, mécaniciens, menuisiers, etc. C'est une classe supérieure de travailleurs dont les uns ont reçu une éducation scientifique et dont les autres exercent un métier. Ils restent en dehors du cercle des ouvriers de fabrique auxquels ils ne sont que juxtaposés. Le travail à la machine exige que l'ouvrier soit rompu de bonnes heures à ce genre d'occupation, afin d'apprendre à régler ses propres mouvements sur le mouvement uniforme et continu de l'automate. La rapidité avec laquelle les enfants apprennent le travail à la machine supprime la nécessité d'avoir une classe particulière d'ouvriers pour ce genre de travail. La spécialité qui consistait à manier toute sa vie un outil parcellaire devient la spécialité de servir toute sa vie une machine parcellaire. On abuse du machinisme pour transformer le travailleur lui-même, dès l'enfance, en une fraction d'une machine fractionnée. Non seulement les frais qu'exige sa reproduction se trouvent ainsi considérablement diminués, mais en même temps, sa dépendance complète de la fabrique, comme du tout dont il n'est qu'une partie, et par conséquent du capitaliste, est consommée. Dans la facture et dans le métier, l'ouvrier se sert d'outils. Dans la fabrique, c'est lui qui sert la machine. Là, le mouvement de l'instrument du travail part de lui. Ici, c'est à ce mouvement qu'il doit obéir. Dans la manufacture, les ouvriers forment les membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique, il existe un mécanisme mort, indépendant d'eux, et auquel ils sont incorporés comme des accessoires vivants. La facilité même du travail devient un moyen de torture, car la machine ne libère pas le travailleur du travail, mais elle prive son travail de contenu. Par sa conversion en automate, l'instrument de travail se dresse devant l'ouvrier. Durant le travail même, comme capital, comme travail mort, dominant et absorbant la force de travail vivante. La séparation des puissances intellectuelles de la production avec le travail manuel et la transformation des premières en puissances de domination du capital sur le travail s'accomplit, comme il a déjà été indiqué, dans la grande industrie fondée sur la base du machinisme. L'habileté de détail de l'ouvrier individuel, aidé par la machine, disparaît, comme un imperceptible accessoire, devant la science, devant les prodigieuses forces naturelles, devant l'immense travail social qui s'incarne dans la machine et qui constitue avec elle la puissance du maître. Ce maître, dans le cerveau duquel la machine et le monopole qu'il exerce sur elle sont inséparablement unis, pourra jeter à ses ouvriers, en cas de conflit, ses paroles méprisantes. Les ouvriers de fabrique devraient conserver la salutaire mémoire de ce fait, que leur travail est en réalité de qualité très inférieure, et qu'il n'en est point qui soit plus facilement appris ou relativement mieux payé, ou qui, au moyen d'un court apprentissage donné aux moins experts, puisse être plus rapidement et plus abondamment fourni. Les machines du maître représentent en réalité un facteur bien plus important de la production que le travail et l'habileté de l'ouvrier, que 6 mois d'apprentissage peuvent enseigner et que le moindre travailleur peut apprendre. Rapport du comité du Fonds de défense des maîtres filateurs et manufacturiers, Manchester, 1854.